écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, 23h ici à Paris, 22h en temps universel, 17h à Washington.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France, votre rendez-vous d'une demi-heure consacré à l'actualité française.
Stéphane Genest.
Et d'abord le journal avec une édition de 24h en France bousculée par l'actualité américaine, élection présidentielle aux États-Unis. On sera naturellement sur place avec Karim Lipold et on s'intéressera également au climat et aux suites à donner à l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique en fonction de qui est élu à la présidence américaine entre Donald Trump et Kamala Harris. Au sommaire également cette journée noire pour l'emploi. Ici en France, deux grands groupes annoncent plusieurs milliers de suppressions de postes. L'exécutif leur demande des comptes.
RFI.
Une fois n'est pas coutume, on commence 24 heures en France, très loin de l'Hexagone, puisque le principal titre de l'actualité de ce mardi, c'est évidemment l'élection présidentielle américaine. Tous les bureaux de vote des États-Unis sont désormais ouverts. Les premiers à fermer sont ceux des parties orientales, du Kentucky et de l'Indiana. Ce sera dans une heure maintenant. En Pennsylvanie, les bureaux de vote sont encore ouverts pendant 3 heures. Et c'est dans cet état pivot que l'on vous retrouve. Harim Lipold, vous êtes non loin de Pittsburgh. Et Harim, dans quel état d'esprit sont les électeurs que vous avez rencontrés?
Les électeurs sont très partagés, l'ambiance très différente en fait selon les affinités politiques des uns et des autres. Chez les électeurs démocrates que j'ai rencontrés ce matin dès l'ouverture des bureaux de vote, donc à 7h, on sent une réelle inquiétude, ils sont stressés, ils redoutent une possible victoire de Donald Trump qui pourrait selon eux entraîner des reculs sur beaucoup de sujets comme l'avortement, le changement climatique ou tout simplement les institutions démocratiques aux États-Unis. Et puis côté républicain, c'est toute une autre ambiance. Les partisans de Donald Trump sont motivés à bloc. Beaucoup sont convaincus que l'élection de 2020 leur a été volée et ils considèrent aujourd'hui qu'il y a une revanche à prendre. Ils se montrent aussi très méfiants vis-à-vis du dépouillement des bulletins. L'un des électeurs républicains, par exemple, m'a confié qu'il avait préféré voter en personne aujourd'hui par crainte que son bulletin de vote par correspondance disparaisse, soit brûlé ou détruit. Donc là, donc grande méfiance de la part des républicains. La grande question, c'est aussi quand est-ce qu'on aura les résultats. Vous savez, en Pennsylvanie, il y a 4 ans, on les avait seulement 4 jours après le scrutin. Les autorités locales affirment aujourd'hui que ça va aller un peu plus vite.
Harim Lipold, en direct de Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour RFI. Merci Harim. Alors les candidats, eux, ne font plus campagne, mais ils continuent de s'exprimer. Donald Trump se dit très confiant en sa victoire. Kamala Harris, elle appelle les Américains à sortir voter. Scrutin, on le disait, très tendu. Certains bureaux de vote de l'État de Géorgie ont dû fermer temporairement leurs portes en raison d'alerte à la bombe. Tout est rentré dans l'ordre, nous fait savoir notre envoyé spécial dans cet État. Et durant la campagne, Harim l'expliquait, l'immigration, le droit à l'avortement, mais aussi l'économie ont été des principaux thèmes de débat. Et le climat n'en a pas été vraiment un. Et pourtant, le pays est le premier exportateur de pétrole au monde et le premier émetteur de gaz à effet de serre historique. Alors sans l'action des États-Unis en faveur du climat, l'accord de Paris pourrait limiter le réchauffement climatique en dessous des plus 2 degrés, ce qui pourrait bien être enterré, cet accord de Paris, Jeanne Richard.
C'est la crainte de tous les défenseurs de l'environnement que Donald Trump remporte l'élection. Climato-sceptique assumé, sa politique n'aurait pas que des conséquences au niveau national, car il compte bien retirer les États-Unis de l'accord de Paris, comme il l'avait déjà fait lors de son premier mandat, et comme le souhaitent les lobbies conservateurs qui le soutiennent. Il envisagerait même de se retirer complètement de l'ONU Climat, signant la fin de toute participation américaine au COP, et Gaïa Fèvre du réseau Action Climat craint des répercussions au niveau mondial.
Est-ce qu'on va pas avoir un effet domino avec d'autres présidents qui pourraient trouver cette idée intéressante? Qu'est-ce que ça veut dire en vrai pour l'accord de Paris?
Et par ailleurs, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, estime quant à lui que les négociations seraient paralysées même si l'accord de Paris pouvait survivre à un retrait américain. Décryptage signé Jeanne Richard dans 24 heures en France. Scrutin qui pourrait avoir des conséquences, on le disait, environnementales, mais aussi à l'international évidemment. Élection américaine qui ne laisse pas les Français indifférents. Écoutez les craintes d'Adrien, il a 32 ans. Il est responsable commercial et il était interrogé par Camille Salcedo Ruiz dans un bar américain de la capitale.
Je suis inquiet de la montée de l'extrême droite de manière générale et du coup de la montée de Donald Trump aux États-Unis et de sa politique et de la politique qu'il veut mener. Ce qu'il a déjà mené et ce qu'il voudrait mener dans le futur, ça m'inquiète pas mal. Ouais. C'est à mon sens dangereux de laisser les clés d'un pays majeur dans le monde à quelqu'un qui est relativement impulsif et qui a l'air peu réfléchir pour sa décision géopolitique.
Et de ce scrutin américain, on en parle évidemment tout au long de la soirée et de la nuit sur RFI. Rendez-vous toutes les heures pour vos rendez-vous d'information avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts et surtout édition spéciale dans 4 heures maintenant, à 4 heures de Paris, 3 heures temps universel. Et puis vous pouvez nous suivre en temps réel cette journée aux États-Unis sur notre site directement. C'est tout simple, c'est RFI.fr. Il est 23h et pratiquement 6 minutes ici à Paris.
24 heures en France.
Et on en vient à cette journée noire pour l'emploi en France. Le distributeur Auchan et l'équipementier automobile Michelin ont annoncé à eux deux plus de 3600 suppressions d'emplois en perspective des fermetures d'usines ou encore des plans sociaux qui provoquent la tristesse, l'incompréhension et la colère chez les salariés à Agnieszka Kumor.
Nous sommes en solidarité, nous le serons.
Alors nous entendions le Premier ministre Michel Barnier qui réagit quant à cette annonce et de Michelin et d'Auchan de supprimer des postes, hein, 3600 suppressions d'emplois à eux deux. Le Premier ministre Michel Barnier appelle les deux entreprises à demander des comptes quant à l'argent public qui leur a été donné et notamment des accompagnements de l'État. On évoquait cette gronde sociale des employés de Michelin et d'Auchan, et bien gronde sociale également au cours d'une autre entreprise bien connue en France, la SNCF. Les syndicats cheminots appellent à une journée de grève. Ce sera le jeudi 21 novembre prochain, annonce faite après une rencontre avec la direction du groupe ferroviaire pour évoquer le démantèlement de la filiale du transport de marchandises de la SNCF, Fret SNCF, hein, qui va être divisée en deux entités distinctes. 500 emplois sont menacés de suppression, mais la direction de la SNCF affirme qu'ils seront réaffectués dans d'autres structures du groupe. Et puis on évoquait il y a donc quelques secondes ces suppressions d'emplois, 3600 suppressions d'emplois entre Auchan et Michelin, qui provoquent la colère, la tristesse et l'incompréhension des salariés à Agnieszka Kumor.
Les annonces sont tombées presque au même moment. Michelin prévoit la fermeture avant 2026 de deux de ses sites industriels dans l'ouest de la France, une mesure qui concerne plus de 1200 salariés. La direction espère limiter l'ampleur des dégâts via un accompagnement des collaborateurs concernés ou des formations de reconversion. Par ailleurs, des plans de départ volontaires ont été prévus. À l'origine de cette situation, l'effondrement de l'activité dû à la crise du secteur automobile, affirme le PDG de Michelin, qui promet de ne laisser personne au bord du chemin. Surprise et incompréhension parmi les salariés. Difficulté aussi chez Auchan. Après plusieurs choix stratégiques erronés, selon les experts, le distributeur devra supprimer plus de 2300 postes en France sur les 53 000 que le groupe compte dans l'Hexagone. Le ministère de l'économie se dit préoccupé par ces mesures. Le Premier ministre, Michel Barnier, veut savoir quant à lui ce que les deux groupes ont fait de l'argent public qu'on leur a donné.
Justement, Michel Barnier qui a été interpellé sur le sujet à l'Assemblée tout à l'heure.
Nous sommes en solidarité, nous le serons en exigeant de ce groupe comme du groupe Auchan de travailler avec le tissu local, les élus locaux, les syndicats, le patronat local, la chambre de commerce, de mettre en moyenne ensemble tous les outils dont nous disposons pour accompagner individuellement chacun des salariés et accompagner ces territoires dans la possibilité de reconversion. Ça a été fait ailleurs. Ça doit être fait là aussi. Je veux d'ailleurs, M. Chassaigne, vous dire, comme à d'autres députés, que j'ai le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Vous pouvez être sûr que ce sera une des priorités absolues que celle du gouvernement, à vos côtés si vous voulez bien, que de préserver ou de reconstruire le tissu industriel et agricole de la France.
C'était tout à l'heure à Paris, grand rassemblement en soutien à cette jeune étudiante iranienne arrêtée par la police le 2 novembre dernier. Les images de cette jeune femme qui s'est déshabillée en pleine rue en public à Téhéran en guise de protestation contre la sévérité du code vestimentaire de son université ont fait le tour du monde. On est toujours sans nouvelles d'elle. D'après l'université Azad de Téhéran, elle aurait été transférée dans un hôpital psychiatrique devenu nouveau symbole de la lutte pour le droit des femmes en Iran. Un rassemblement était donc organisé tout à l'heure, place du Panthéon, et dans la foule il y avait Moji, réfugiée politique iranienne, elle se dit inquiète pour toutes les femmes de son pays.
Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut être ma sœur, ça peut être ma mère, ça peut être n'importe quelle fille, quelle femme en Iran. Je me bats depuis que je suis en France. Je suis réfugiée politique ici depuis plusieurs années ici. Et du coup, c'est important pour moi. Et je lutte pour femme, vie, liberté.
Les propos recueillis par Amélie Beaucourt. Des nouvelles de Cécile Kohler et de Jacques Paris, ce couple de Français détenus en Iran depuis maintenant plus de 2 ans. Les autorités iraniennes affirment ce mardi qu'ils sont en bonne santé. Leur famille dénonce des mauvais traitements. Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont accusés par Téhéran d'être des espions, ce que les proches et le comité de soutien de Cécile Kohler réfute fermement. La fin du procès d'un gigantesque réseau de passeurs dans la Manche. Des peines allant jusqu'à 15 ans de prison ont été prononcées contre ces passeurs pour des traversées effectuées entre 2020 et 2022. Rien que cette année, ce sont 60 personnes qui sont mortes dans des tentatives de traversée de la Manche. Précision avec Frédéric Jeannot.
Ce sont des marchands de mort, avait dit la procureure en décrivant les membres du réseau, soupçonnés d'avoir organisé plus de 10 000 traversées clandestines selon les autorités britanniques. Les passeurs entassaient les passagers dans des canaux surchargés bien au-delà des contenances théoriques. Chaque traversée rapportait autour de 100 000 euros. Outre une peine de 15 ans de prison, le chef du réseau, un Irakien de 26 ans, se voit infliger une interdiction définitive du territoire français et 200 000 euros d'amende. Déjà condamné à 2 reprises dans le passé, il avait été évacué de la salle d'audience après avoir menacé les interprètes. Lors de l'enquête menée par les agences Europol et Eurojust, du matériel avait été saisi en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Des centaines de gilets de sauvetage, canaux pneumatiques et moteurs de bateaux, ce qui avait justifié le terme de réseau tentaculaire. D'autres membres de ce même réseau doivent être jugés en Belgique l'an prochain.
Frédéric Jeannot. Après le Goncourt, après le Renaudot, hier, un autre prix littéraire a été attribué ce mardi. Il s'agit du prix Femina et il récompense l'auteur franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy pour son livre Le rêve du jaguar. Et puis il y avait du football ce soir, 4e journée de phase de la poule de la Ligue des Champions. 2 clubs français en compétition, Lille et la Juventus de Turin se sont quittés sur un nul, 1-1. Et à noter la victoire de Monaco, 1-0. C'était face à Bologne, 23h12 à Paris.
24h en France. Stéphane Genest.
Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture. À présent, aujourd'hui, on reçoit la réalisatrice Coralie Farja. Elle signe le film The Substance, une parodie gore fantastique sur la violence que nos sociétés imposent aux femmes, exigeant d'elles qu'elles soient toujours plus belles, plus minces, plus sexy. Coralie Farja est au micro RFI d'Isabelle Chenu.
Bonjour Coralie Farja.
Bonjour.
The Substance sort en France. Le film avait fait sensation à Cannes, on s'en souvient, prix du scénario. Donc un film d'horreur. Dans le genre horrifique, il y a peu de femmes, dont vous faites partie.
Oui, alors je dirais pour moi que c'est plus un film de genre qu'un film d'horreur, puisque c'est un film qui, je pense, peut plaire aussi à ceux qui ne regardent pas en général des films d'horreur. Moi, j'ai grandi avec ces films-là. C'est les premiers films que j'ai découverts. Je pense que ça représentait un monde assez mystérieux auquel j'étais pas censée avoir accès puisque j'étais une fille. Et à l'époque, les filles, ça regardait pas les films d'horreur. C'était le monde des garçons. Et c'est aussi là que j'ai trouvé, moi, ma force, ma liberté. Le plaisir de pouvoir faire tout ce que je ne pouvais pas faire dans la vraie vie.
Donc The Substance, Coralie Farja, c'est un film transgressif.
C'est un film complètement transgressif, féministe, et qui a vraiment vocation à secouer le spectateur dans le bon sens, c'est-à-dire en lui faisant vivre une expérience assez dingue, super drôle, parce que je pense que le film est très drôle, mais dont les thématiques vont rester avec lui et entraîner une digestion, une réflexion et, je l'espère, un autre regard sur le monde.
Alors, The Substance, Coralie Farja, met en scène 2 personnages qui sont interprétés par Demi Moore, qui joue une vedette d'une émission d'aérobic qui arrive à la 50aine, et un autre personnage plus jeune, son double d'une certaine manière, interprété par Margaret Qualley.
En fait, le film vient de ma propre expérience en tant que femme, de ce que je pense que m'a fait ingurgiter le monde pour que, en approchant la 50aine, je commence à me dire « Oh mon Dieu, c'est terrible, c'est fini pour moi. Je vais disparaître, je ne vais plus avoir d'utilité, plus personne ne va me regarder, on ne va plus me vouloir nulle part. La violence de ces pensées, qu'elles aient pu prendre corps à ce point dans mon cerveau, m'a questionnée. Je me rends compte qu'en fait, à partir d'un certain âge, la représentation des femmes disparaît. Elles sont effacées, elles sont éliminées, elles sont désinguées, comme si, effectivement, passé cet âge de la fertilité, la jeunesse, la sexitude, on n'avait plus d'utilité, plus d'intérêt, plus d'existence. Et en fait, à partir de là, j'ai compris à quel point, même si on était éduquée, féministe comme moi, rationnelle, c'était impossible d'échapper à la violence de ces diktats et à quel point elles pouvaient nous faire nous-mêmes nous sentir rien. Et j'ai voulu vraiment donner un énorme coup de pied là-dedans en disant « Oh, mais c'est pas possible !» Et ce n'est pas que sur la péremption, parce que à tout âge de notre vie, on a ces mêmes injonctions et ces mêmes modèles qui peuvent nous faire penser qu'on n'est pas dans les bonnes cases, qu'on n'a pas les bons seins, qu'on n'a pas le bon cul, qu'on n'a pas la bonne cuisse sans cellulite. Et la violence intériorisée que ça entraîne, c'est ça que j'ai mis à l'écran.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Coralie Farja, qui était avec Isabelle Chenu, et The Suspense de Coralie Farja sort donc demain sur les écrans français. Et on s'arrête dans le nord de Paris, dans le 20e arrondissement de la capitale, immersion dans un atelier de généalogie qui est proposé aux personnes originaires des Antilles tous les mardis. L'objectif, c'est de construire une mémoire apaisée autour de l'esclavage auquel ont été réduits des millions d'hommes et de femmes en Martinique et en Guadeloupe pendant 213 ans. L'association CM98 et sa base de données accompagnent donc toutes les semaines celles et ceux qui souhaiteraient retrouver leurs ascendants, libres ou esclaves. Amélie Beaucourt a donc poussé la porte d'un de ses ateliers reportage.
Il avait 36 ans et son matricule, c'était le 803.
Lina est assise devant une large feuille blanche composée d'une vingtaine de cases. Tout en bas, elle inscrit le nom de son papa, un homme né à Marie-Galante en Guadeloupe et qui ne lui a jamais parlé de ses grands-parents.
Ça m'intéresse de connaître la vie des anciens, de mettre, je dirais pas des visages, mais des noms, quoi. Et j'apprends des choses intéressantes, qu'ils ont été esclaves, libres. Je ne savais pas qu'il y avait des matricules aussi.
Dans sa recherche, elle est accompagnée d'Evelyne de l'association CM98. Sur l'écran d'une tablette, les deux femmes naviguent parmi les archives numérisées. Les actes de naissance, de mariage ou de décès établis il y a plus de 100 ans sont aujourd'hui accessibles à tous.
C'était relativement simple parce que ce sont des personnes de Saint-Louis, de Marie-Galante et qui n'ont pas beaucoup bougé. Donc ça facilite quand c'est dans la même commune. Là, pour le moment, on remonte jusqu'à une personne qui est née en 1790. C'est très compliqué de pouvoir aller plus loin, mais on va s'y atteler.
Une case en particulier retient l'attention de Lina, celle de son arrière-arrière-grand-mère, Mathurine, domestique née esclave.
Elle m'interroge, cette femme a été émancipée à 61 ans, ou qu'elle a eu 5 enfants, qu'elle a racheté ses enfants. Ça veut dire qu'elle a fait beaucoup de choses pour le maître, hein, pour qu'il la franchisse à 61 ans, c'est qu'elle a été sa compagne, quoi. Ou alors, je sais pas, elle a rendu vraiment de bons services, quoi. L'embêtant, c'est qu'on peut pas remonter jusqu'à la provenance africaine, quoi.
C'est impossible, ça ?
Moi, je dirais pas que c'est impossible. La plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas du tout à remonter puisque l'esclavage a duré plusieurs siècles. Hein, donc, et quand ils les prenaient à des kilomètres et qu'ils les faisaient marcher pendant des jours et des jours pour arriver sur la côte, c'était pas leur problème de savoir d'où ils venaient. Ces gens.
Derrière ces ateliers se cache un travail de compilation de données colossales. L'association CM98 a d'ailleurs sa propre base, appelée Enchoucage, qui recense tous les patronymes donnés à la deuxième abolition de l'esclavage en 1848. Pour aller encore plus loin, l'association se penche aujourd'hui sur les actes notariés, des documents sur lesquels figuraient les achats des propriétaires, puisque les esclaves avaient à l'époque du Code noir le statut de meuble.
Les ateliers généalogiques du CM98 pour retrouver ses ancêtres esclaves. Reportage France signé Amélie Beaucourt. 23h19 à Paris, 18h19 à Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France.
Le journal des Outre-mer.
Et à la une, la tenue d'un congrès des élus avant la fin de l'année, voilà qui est le principal résultat de la conférence territoriale consacrée ce lundi à la vie chère en Martinique. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Conférence qui s'est tenue à l'initiative du président de la collectivité territoriale de la Martinique, Serge Letchimy. La rencontre a tout de même permis aux, entre guillemets, professionnels de la politique de montrer qu'ils ne restaient pas inactifs. Écoutez par exemple Samuel Tavernier et Didier Laguerre, respectivement maires des communes du François et de Fort-de-France. Ils sont tous les deux au micro de Xavier Chevalier.
On nous pose des questions dont les réponses ne peuvent être apportées par nous. Et comme je dis souvent, les gens posent la question « Où sont les élus ?» On entend ça partout. On appelle au secours « Où sont les élus ?» Mais lorsqu'on arrive, effectivement, le plus souvent, eh bien, on a du mal. Parce que nous appelons à respecter, effectivement, une démarche républicaine. Nous appelons, effectivement, à respecter l'ordre. Ce qui déplaît à ceux qui sont sur le barrage, forcément, et les discours ne sont pas entendus.
Vous avez entendu les maires, les élus silencieux ? Vous avez entendu les élus sexmis ? Vous avez entendu les élus dire la légitimité de la revendication de la vie chère. Maintenant, chacun a des modalités de travail et d'intervention différentes. Vous ne pouvez pas demander aux élus d'agir dans l'immédiateté et surtout d'agir comme des associations vont agir, comme d'autres vont agir. Les élus sont dans un cadre. Donc nous agissons au quotidien, nous sommes au travail. Je suis désolé, mais j'ai du mal à m'entendre dire que les élus ne font rien, donc ils seraient en vacances permanentes. Non.
54 millions d'euros déjà dépensés par l'État depuis 2015 pour lutter contre les algues sargasses. Le chiffre est cité par le ministère de la Transition écologique dans un document intitulé « État des lieux, connaissance et compréhension du phénomène ». Un phénomène, l'arrivée des algues brunes, hélas récurrent, est désormais bien connu aux Antilles. Sébastien Gilles, la première Guadeloupe.
Depuis 2015, l'État a consacré un peu moins de 54 millions dans cette guerre. Crédit essentiellement alloué à la collecte, 65%, mais aussi à l'amélioration des prévisions des échouements, à la surveillance des émanations de gaz, le H2S ou encore le NH3, au stockage, à la valorisation et enfin à la conduite d'études d'impact environnemental et sanitaire. Depuis quelques années, l'installation de barrages déviants et ou bloquants se multiplie également afin de protéger des zones sensibles ou inaccessibles par voie terrestre. En 2024, en Martinique, 16 sites en étaient dotés pour un linéaire de 15,7 km précisément. En Guadeloupe, les barrages ne représentent pour l'heure que 3,8 km linéaires sur 3 communes. Ces dispositifs, rappelons-le, restent onéreux et fragiles car soumis notamment aux aléas climatiques. Ils imposent donc des budgets de fonctionnement importants, mais constituent une solution efficace pour protéger les populations et les biens.
On reste dans le domaine marin avec un lagon en mauvaise santé à Wallis. C'est le triste constat d'une mission de suivi venue de la Nouvelle-Calédonie. Léon Vaitanoa de la première Wallis et Futuna a accompagné sur le terrain la biologiste marine Sandrine Job. Et voici son reportage.
Bienvenue au Trou du Diable, l'un des plus beaux sites du lagon de Wallis. Mais ça, c'était avant, et juste en surface. Car sous l'eau, le décor est tout autre. Le corail est en train de mourir. La faute au réchauffement climatique ? Oui, mais pas seulement. Ce site fait partie des spots qui sont surveillés de près depuis 10 ans. Et le premier constat est sans appel. Le changement climatique est déjà à l'œuvre.
Sur Futuna et Alofi, c'est plutôt stable, l'état de santé, voire même en croissance. On a pu remarquer que, notamment sur Futuna, les coraux ont bien poussé, les poissons sont toujours présents. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, sur Wallis, là, on est un peu inquiet, car en fait, il y a eu un blanchissement corallien, là, en début d'année. Et il y a pas mal de coraux, quand même, qui sont morts. On va dire presque même la majorité.
La biologiste qui surveille les récifs et les herbiers de Wallis et Futuna constate également une diminution en poissons, en nombre et en taille, sachant que le sort du lagon dépend en grande partie des herbivores comme les perroquets, les chirurgiens et les picots, des espèces dont raffolent les Wallisiens.
Au niveau du récif, ce qu'on peut faire de manière plus immédiate, c'est de laisser suffisamment d'herbivores pour pouvoir gratter la couverture en algues qu'il y a aujourd'hui sur les coraux morts et permettre aux coraux de se réinstaller. Et après, par rapport au changement climatique, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'essayer de réduire son empreinte carbone.
Comment une île de 96 km² peut-elle lutter contre un phénomène mondial ? La résilience est pour l'heure la solution avancée. En attendant, les effets du changement climatique ne sont pas une fatalité, car les habitudes et les pratiques peuvent changer. Il faut juste le vouloir.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci beaucoup Benoît Ferrand. Très bonne soirée à vous aussi.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Le Conseil Santé de 24 heures en France sur RFI pour prendre soin de vous et soin de vos proches. Et on revient ce soir sur les infections ORL, Caroline Paris.
Docteur Gérald Fin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien otorhinolaryngologiste à Paris. Pourquoi certaines personnes font-elles des affections ORL à répétition, angine ou otite par exemple ?
Parce que ce sont des gens fragiles. Vous savez que l'environnement est multifactoriel et que ces multifacteurs sont, pour certaines personnes, source d'ennuis. Les microbes, par exemple, la pollution. Donc, nous sommes fragiles pour deux grosses raisons. La fragilité microbienne, il existe beaucoup de vaccins qui nous protègent actuellement. Et la fragilité allergique, que j'appelle moi plutôt hyper-réactivité à l'environnement, qui se traite par des médicaments très simples, qui sont les antihistaminiques. Et l'association d'un antihistaminique choisi et de vaccinothérapie très ancienne font que les gens ne sont plus fragiles.
La vaccination, la prévention, ça marche?
La prévention marche dans 90% des cas.
Comment distinguer une angine virale d'une angine bactérienne qui, elle, peut nécessiter la prise d'un traitement antibiotique?
Alors, c'est toujours la grande question des ORL et des médecins généralistes. L'idéal, c'est de faire un prélèvement bactériologique quand on sait le faire et quand on a une interprétation fiable. Et c'est souvent la clinique qui fait la différence. C'est-à-dire que quand on a l'habitude, on fait très facilement la différence entre une infection virale et une infection bactérienne.
Merci docteur Fin. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle du syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'être illégitime malgré de réelles qualités, des qualifications ou des succès personnels. Comment y faire face, l'empêcher d'être un frein au quotidien? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est tout bon, c'est bien noté, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Caroline Paré. Et c'est ainsi que se referme cette édition de 24h en France, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité française. Aux manettes ce soir, Fabrice Violet, à la rédaction en chef Loïc Bussière. Le retour de l'actualité, c'est dans un peu plus de 3 minutes. Afrique Soir avec Pierre Boudias. Et comme tous les soirs à 23h27 ici à Paris, on fait ensemble un petit détour de l'autre côté de l'Atlantique à la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et comme tous les soirs, avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones grimpe de 427 points et clôture à 42 222. Le Nasdaq s'offre 259 points pour finir à 18 439. Wall Street semble miser au moins sur le retour d'une majorité républicaine au Sénat, peut-être aussi sur un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les investisseurs peuvent naturellement se tromper. Mais la rechute du marché obligataire aujourd'hui reflète au moins en partie la crainte d'une aggravation du déficit budgétaire dans l'hypothèse d'une reconduction l'an prochain des baisses d'impôts votées sous Donald Trump en 2017, baisses d'impôts qui arrivent à expiration l'année prochaine. Le rendement du T-bond remonte à 4,29. La hausse des actions, à l'inverse, traduit au moins en partie la perspective de baisse d'impôts sur les sociétés si Donald Trump était élu et l'abandon de réglementations qui sont mal vues par les milieux d'affaires. En début de séance, le cours de Trump Media and Technology Group, la coquille qui contient le réseau social de Donald Trump, a vivement grimpé avant de rendre le terrain gagné et perdre finalement plus d'1%. Cette valeur est un des indicateurs de la probabilité accordée par les investisseurs à une victoire de Donald Trump. La mauvaise tendance sur le marché obligataire est aussi liée à une hausse inattendue de l'indice ISM qui traduit une accélération de l'activité dans les services au mois d'octobre. L'euro remonte à 1,0924, le baril de pétrole américain grappille encore près d'1% et atteint plus de 72$. L'indice Dow Jones gagne 1%, le Nasdaq s'offre 1,4%.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
Vivez les élections américaines sur RFI.
Harris ou Trump, qui pour diriger les États-Unis d'Amérique? Jamais la bataille pour la Maison-Blanche n'a été aussi incertaine. À l'heure du choix, RFI vous propose une édition spéciale avec un dispositif exceptionnel. Retrouvez nos envoyés spéciaux à Washington, dans le Michigan, en Pennsylvanie, en Arizona ou encore en Géorgie, ces états-clés qui pourraient faire basculer le scrutin. USA 2024, la grande nuit de la présidentielle américaine, c'est ce mercredi de 3h à 8h.